Je dirais que dans plusieurs de nos précédentes retraites en ce lieu, nous avons traité le thème que nous avions annoncé à la lumière d'un livre entier de l'Écriture sainte. Parfois, il s'agissait d'un livre de l'Ancien Testament. Nous avons fait, par exemple, entièrement le livre de Malachie, qui est le dernier des petits prophètes de l'Ancien Testament. Une autre fois, nous avons fait, comme fin de semaine, le livre du prophète Jonas. Et d'autres fois, le thème, nous le traitions en étudiant une épître complète du Nouveau Testament. Ainsi, nous avons fait l'épître de Jude, qui précède l'Apocalypse, l'épître à Tite, l'épître aux Galates, aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Philippiens. Mais ce soir, je voudrais simplement introduire notre thème, vivre de la vie d'un autre, par la lecture d'un passage que je prendrai dans l'Épître aux Hébreux. Nous n'allons pas étudier l'Épître aux Hébreux, mais je prendrai seulement un passage. Vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre dans vos Bibles, au chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, à partir du verset 7e jusqu'au chapitre 6, au verset 3e. Et vous comprendrez de suite que le sujet de cette sainte semaine sera d'une importance capitale pour tous ceux et toutes celles qui désirent connaître autre chose que des vérités dogmatiques bibliques, mais qui soupirent après une vie qui soit authentiquement chrétienne. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont venus ici avec ce désir profond de vivre vraiment, dans le quotidien, une vie authentiquement chrétienne? Or, de vie chrétienne, combien est-ce qu'il en existe? De vie vraiment chrétienne, il n'y en a qu'une. J'espère que nous nous comprenons bien. Il n'y a qu'une vie vraiment chrétienne. C'est celle de qui? De Jésus. C'est celle du Christ. La seule vie chrétienne, c'est celle du Christ. Il n'y a pas une vie chrétienne pour les catholiques romains, une vie chrétienne pour ce qu'on appelle les orthodoxes grecs ou autres, une vie chrétienne pour les protestants, qu'ils soient luthériens, calvinistes, ou, prenons un autre réformateur quelconque, ou une vie chrétienne pour les anglicans, ou une vie chrétienne pour les évangéliques, et ils sont nombreux maintenant au Québec, hein, ceux qui se réclament du nom d'évangélique. Alors il y aurait une vie chrétienne pour les baptistes, une vie chrétienne pour les pentecôtistes, une vie chrétienne pour les frères dits chrétiens, hein, une vie chrétienne pour les mennonites, une vie chrétienne pour les salutistes, et que sais-je encore, hein. Je ne voudrais pas en oublier. Mais vous avez compris ce que nous voulons dire. Au fond, il n'existe qu'une vie authentiquement chrétienne, c'est celle du Christ. Indépendamment du milieu dans lequel vous êtes né. Est-ce que vous avez demandé de naître dans un milieu quelconque? Vous êtes entré dans ce monde parce que vous l'avez voulu? Non, sans l'avoir voulu. Et alors, dans le milieu où vous avez vu le jour, vous avez reçu une certaine éducation d'après la religion de vos parents. et on vous a mis cette étiquette de chrétien. Si vous étiez né dans une famille musulmane, qu'est-ce que vous seriez? Alors peut-être musulman. Si vous étiez né dans une famille hindouiste, vous seriez, ou dans une famille d'hindous, vous seriez peut-être hindouiste ou bouddhiste. De sorte que nous ne voulons pas nous glorifier de notre titre et nous ne voulons pas être de ceux qui se mettent d'abord une étiquette et qui rencontrent les autres avec leur étiquette et qui ont tout de suite l'idée on n'est pas du même bord. Parce que quand je lis l'Écriture, qu'est-ce que j'entends? Jésus qui dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique pour qui? Pour quiconque croit en lui, afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voyez-vous, si on revient à cette pensée qu'il n'y a qu'une vie chrétienne, et que cette vie chrétienne, c'est celle du Christ, on est sur le vrai chemin de la seule unité qui soit celle que Dieu désire. Non pas une unité fabriquée par les hommes, comme on appelle un certain œcuménisme. Il y a un œcuménisme qui est vraiment biblique, qui est vraiment spirituel, l'unité des vrais croyants, mais ce qu'il faut, ce à quoi nous devons veiller, c'est que la vie du Christ ne nous amène pas à une uniformité, mais à une unité. Les dons en Christ sont des dons différents. Les manifestations du Saint-Esprit peuvent être diverses, mais elles doivent venir du même esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit du Christ, et l'esprit du Christ, c'est aussi l'esprit du Père. Nous n'allons pas séparer le Père du Fils, ou le Saint-Esprit du Père et du Fils. Nous distinguons dans le Dieu unique trois personnes, mais nous ne les séparons pas. Ils vivent dans une unité totale. Eh bien, nous aussi, ce que nous désirons découvrir au cours de cette semaine, c'est cette unité que le Seigneur voudrait nous voir manifester dans nos relations quand on est habité par la même personne. Mais la question, justement, c'est d'être habité par la même personne. C'est de ne plus avoir un Christ extérieur à notre vie, auquel on fait nos dévotions, plus ou moins régulièrement, mais d'avoir un Christ qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, disait saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, vivez de la vie d'un autre. Ce n'était plus lui qui vivait, c'est le Christ qui vivait en lui. Et c'est cela qui nous donne ce thème, vivre de la vie d'un autre. Cet autre qui doit animer notre vie, vous l'avez déjà compris ce soir, c'est qui? Le Christ. C'est Jésus-Christ. Cette seule personne qui peut amener les chrétiens, je le répète, non pas à une uniformité, mais à une réelle unité dans l'amour. Alors qu'on peut avoir reçu des dons ou des services différents. Vous voyez par exemple les quatre évangiles. Eh bien, chacun de ces évangiles nous présente la personne du Christ d'une façon particulière. Ainsi, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu s'attache à présenter le Christ aux Juifs comme étant le roi des Juifs, le roi qui devait venir selon les Écritures. Hein. Christ est roi dans Matthieu. Dans Marc nous présente toujours la même personne, le Christ, mais il nous le présente sous un autre aspect, comme le serviteur de l'Éternel. Celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et si vous lisez l'évangile de Luc, vous voyez que vous retrouvez le même Jésus, mais Luc insiste surtout sur ce fait que Jésus, tout en étant roi, tout en étant serviteur, a été réellement un homme. Un homme. L'évangile de Luc, c'est l'évangile de l'humanité du Christ. Il n'y a pas de contradiction entre eux. Mais différents aspects du Christ nous sont présentés. Et quand vous arrivez à l'évangile de Jean, qu'est-ce que vous trouvez? La répétition de tout ce qu'il y a eu dans les autres évangiles? Non. Vous y trouvez un autre accent. L'évangile de Jean vous présente le Christ comme étant Dieu lui-même. Son commencement n'est pas à la crèche, pas plus que sa fin ne serait à la croix. Et c'est pourtant le même, la même personne qui nous est présenté, mais sous des aspects différents. Mais dans ces quatre évangiles, vous trouvez une unité merveilleuse. Et on pourrait même parler d'un cinquième évangile, qui serait celui de l'apôtre Paul, qui lui-même nous parle de son évangile, évangile qu'il n'a pas reçu de Jésus quand il allait de lieu en lieu enseignant ses disciples sur la terre, mais qu'il a reçu après cette révélation qu'il a eue sur le chemin de Damas, alors qu'il persécutait les chrétiens. Saul de Tarse est arrêté et il entend cette voix: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, que tu persécutes. Et il se convertit là au Seigneur. Et nous apprenons, en lisant ses épîtres, que tout l'évangile qu'il prêche, il ne l'a pas reçu ni de Pierre, ni de Jacques, ni de Jean, ni d'aucun des apôtres qui avaient connu le Seigneur dans sa vie terrestre, mais il l'avait reçu directement par une révélation du Seigneur. Ce que j'enseigne, dit-il, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Mon évangile, je ne l'ai pas pris à Jérusalem. Mon évangile, je ne l'ai pas pris des apôtres, il me l'a révélé lui-même. Mais quand il est allé trouver les apôtres et qu'ils se sont parlé ensemble, ils ont vu que c'était le même évangile. La même bonne nouvelle. Eh bien, mes amis, voilà cette unité que vous voyez dans les évangiles, mais qui n'enlève pas une merveilleuse diversité. Et la misère des églises aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de contact entre les âmes bien souvent, il y a des cadres rigides, on vous met en garde contre d'autres âmes qui fréquentent d'autres milieux, parce qu'on a peur que vous quittiez tel groupe pour aller grossir un autre groupe. Mes chers amis, nous devons, dans la foi au Seigneur Jésus, dépasser toutes ces choses, et quand nous nous rencontrons, ne pas savoir d'abord quelle est notre étiquette, mais réaliser que le Christ vit en nous. Et quand on vit de la vie d'un autre, et cet autre est le même pour tous, Jésus était le Jésus de Matthieu, Jésus était le Jésus de Marc, Jésus était le Jésus de Luc, Jésus était le Jésus de Jean, mais Jésus était aussi Jésus de Paul, comprenez-vous? Comme aussi de tous les prophètes, puisque les prophètes avaient annoncé à l'avance cette parole. Alors, maintenant, je voudrais simplement, habituellement, nous lisons tout le livre que nous allons étudier, mais cette fois, nous allons étudier un thème, surtout. Alors, j'ai préparé quelque chose de différent, mais nous allons simplement lire quelques versets. Vous désirez que cette vie du Christ soit la vôtre. Vous désirez aussi que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit réellement votre Père, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ soit réellement votre Dieu. Et vous désirez que ce Père de Jésus-Christ, ce Dieu de Jésus-Christ, soit pour vous et fasse pour vous ce qu'il a fait pour son Fils. Est-ce que c'est cela votre désir? Bien, vous trouvez que c'est impossible. Est-ce que vous trouvez que c'est impossible? Est-ce que vous croyez que Dieu le désire être pour vous ce qu'il a été pour son Fils? J'espère que vous avez de l'appétit, hein, spirituel, et que vous croyez à l'amour de Dieu, et que vous pensez que Dieu a de bonnes pensées pour vous, quelle que soit votre situation présente. Vous avez peut-être des difficultés, vous avez peut-être des combats, mais quelqu'un l'a rappelé que le verset de son cœur, c'était Romains 8, verset 28, et qu'est-ce que c'est? Toute chose concourt, vous travaillez ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. La question pour vous maintenant, c'est d'aimer Dieu. Le reste, c'est lui qui va s'en occuper. Vous le croyez? Il va s'en occuper et vous serez des hommes et des femmes qui peuvent parler de vraie délivrance. Alors, verset 5 du chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, pour que vous soyez assurés que je ne m'en vais rien dire de moi-même. Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Vous voyez, la fonction que le Christ a reçue, ce n'est pas à lui-même qui se l'est attribuée. Il l'a reçue de son Père. Verset 6. « Comme il est dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Verset 7. « C'est lui, donc le Christ, qui, dans les jours de sa chair, » vous comprenez ce que ça veut dire, hein, pendant son incarnation, a présenté avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Est-ce que ça veut dire que Christ n'est pas mort? Il a, dans les jours de sa chair, il a offert des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. Il n'est pas mort? Oui, il est mort, mais il n'est pas resté dans la mort. Hein? Il a été exaucé à cause de sa piété. Qu'est-ce que c'est que la piété? C'est la relation que l'on a avec Dieu. La piété, c'est les rapports personnels que vous avez avec Dieu. Il a été exaucé à cause de sa piété, parce que Jésus, lui, il restait constamment dans une relation de dépendance de Dieu. Si vous voulez connaître une vie nouvelle, apprenez à rester dans la dépendance de votre Père céleste. Mais pour ça, il faut apprendre quelque chose. Et c'est ce que j'espère que Dieu nous donnera la grâce d'apprendre. Il a appris, bien qu'il soit fils, avec un grand S, l'obéissance par quoi? Par les choses qu'il a souffertes. Alors, ne vous attendez pas à ce que dans cette fin de semaine, je vous dise, vous savez, c'est très facile. Ça va aller tout seul. Je ne vais pas être celui qui vous berce d'illusions. Je voudrais être celui qui, peut-être pour la dernière fois, sur le chemin de votre vie, vous dit la clé de la bénédiction, la clé d'une vie authentiquement chrétienne, c'est d'accepter d'obéir à ce que le Seigneur nous demande. Mais si vous voulez vraiment obéir, qu'est-ce qui vous arrivera? Vous souffrirez. C'est dans le programme. Et si vous ne voulez pas accepter cette dimension de la souffrance dans votre vie, vous ne ferez jamais cette expérience extraordinaire d'un Dieu qui est pour vous, qu'il a été pour Jésus-Christ. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un tout petit salut. L'auteur d'un salut conditionnel. C'est ça que vous lisez? L'auteur d'un salut éternel. C'est quelque chose, hein? Mais il l'est devenu pour qui? Pour ceux qui lui obéissent. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Puis il ajoute, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenu lent à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes saints, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien, nous avons vraiment cette sainte ambition que dans ces quelques heures que nous allons passer ensemble, le Seigneur puisse nous apporter par son esprit une nourriture solide. Et qu'ayant reçu cette nourriture, dans un monde où justement tout est gris, parce qu'on mélange le blanc et le noir, hein, on ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal, que vous ayez ce discernement pour savoir ça c'est mal, ça c'est bien. Et avoir la force aussi, le secret de la force, pour marcher dans le chemin où vous pouvez être béni. Dieu ne vous force pas d'y marcher. Et si vous acceptez d'y marcher, vous devez compter que vous aurez des souffrances. Mais des souffrances qui vous donnent de la joie. Vous savez, dans les pays de l'Est, les gens qui sont en prison sont des gens plus heureux que tous les chrétiens qui sont soi-disant libres dans nos pays, dans notre société de consommation. Ceux qui sont privés de certaines libertés, ceux qui souffrent. Voyez-vous, ce sont des bienheureux. Ils vivent vraiment ce que l'apôtre Jacques dit, estimez-le comme un sujet de parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses épreuves, car l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous croyez qu'ils ont le temps de convoiter toutes sortes de choses, ces gens qui souffrent? Ils sont libérés de ces convoitises. Ils ont l'esprit occupé par autre chose. Parce que le monde, ils savent bien que le monde ne leur donne rien et ils n'attendent plus rien du monde. Ils attendent tout de leur Dieu. Et ils ont un Dieu qui leur parle. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ben voilà, notre introduction. Nous n'allons pas revenir à ce que l'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux appelle les éléments de la parole du Christ. Et vous aurez remarqué qu'il en cite, il cite 6 points qu'il souligne. Dans ces 6 points, nous allons les laisser de côté, si vous êtes d'accord, pour passer à un enseignement d'adulte. Non plus qu'on enseigne toujours aux enfants dans la foi, mais nous voudrions arriver à un enseignement d'adulte. Mais vous constaterez cependant, et je le dis juste avant de terminer, que ces 6 points, ou l'un des 6, est devenu la préoccupation essentielle de plusieurs chrétiens qui, en isolant une de ces 6 vérités, deviennent quoi ? Sectaires. Chacun se réclame d'une de ces vérités. Et c'est ainsi que l'on devient sectaire. Bien sûr que la repentance est une vérité, mais on ne doit pas en rester à cette repentance ou au renoncement des œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est celles qui ne sont pas produites par une foi vivante. Les œuvres mortes, ce ne sont pas des œuvres mauvaises en elles-mêmes, mais ce sont des œuvres qui ne sont pas produites par une foi vraiment vivante. Alors pour Dieu, ce sont des œuvres mortes. Il y a des églises qui en sont encore avec ces œuvres mortes, comme si le salut dépendait des œuvres qu'on n'a pas faites et de celles qu'on a faites. Il y a d'autres églises qui, alors, parlent surtout de la foi en Dieu. Il faut croire en Dieu. Mais vous le savez aussi, croire en Dieu ne sauve personne. Le diable aussi croit. Et vous savez bien que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, nous n'allons pas simplement vous parler de la foi. La foi en Dieu, ce sont des vérités élémentaires. La doctrine des baptêmes, c'est ça qui est souvent pénible. Quand on rencontre certaines personnes, la première chose dont ils nous parlent, c'est le baptême. Hein. Dans tous les milieux. Il y en a qui sont pour le baptême des enfants, il y en a qui sont pour le baptême des adultes, il y en a qui parlent du baptême de Jean, il y en a qui parlent du baptême d'eau, d'autres du baptême du Saint-Esprit, et au nom de tous ces baptêmes, on se divise. C'est vrai ou c'est faux? Ça fait une ombre, hein? Comme si c'était ça qui était central. Il y a une doctrine, oui, les baptêmes, mais c'est pas cela qui va nous occuper d'abord. Puis, il y a aussi l'imposition des mains. Ben, l'imposition des mains, ça existe dans la Bible. Mais ce n'est pas de l'imposition des mains que nous allons parler. C'est l'imposition des mains qui peut apporter la consécration, ou qui peut apporter une délivrance. D'accord. Mais ce n'est pas cela qui est central. Parce que vous avez une multitude de gens qui se sont fait imposer les mains des centaines et des centaines de fois, puis la vie de Jésus n'est pas en eux. Comprenez-le bien, c'est visible, ça ne change pas. Puis alors la résurrection des morts, bien sûr qu'on y croit, hein, la vie après la vie, une résurrection des morts, puis le jugement éternel, on sait bien que après la mort suit le jugement. Bien, nous allons laisser ces vérités élémentaires de côté. J'espère que vous y croyez à ces vérités. Parce que ce sont toutes des vérités qui ont leur place. Mais elles ne doivent pas être au centre. Comprenez-vous? Parce que si vous les mettez au centre, vous devenez sectaire. Vous n'envisagez plus le corps de Christ tout entier, dans toutes ses manifestations. Nous voulons en revenir à une personne, la personne du Christ. Et c'est en lui que nous allons trouver la plénitude. Toute la plénitude de la divinité, cette plénitude dont nous avons tous besoin, elle se trouve dans une personne. Mais nous n'allons pas parler simplement de connaissance, d'un savoir, de vérité biblique, parce qu'il y a une différence entre le savoir certaines choses et les connaître. Hein. Entre savoir et connaître. Jésus disait, la nuit où il fut livré, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Hein. Il disait ça. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et c'est ça qui manque partout. Hein. On sait une foule de choses, mais dans la pratique, c'est là que ça cloche. Hein. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Et voyez-vous, la clé de la perfection à laquelle nous sommes appelés, c'est vraiment l'obéissance. Nous sommes authentiquement chrétiens quand marchons dans la voie de l'obéissance. Jésus, notre modèle, modèle de la perfection, nous a montré que cette perfection consiste en une obéissance totale à la volonté de Dieu. Alors, notre christianisme ne doit pas rester un savoir intellectuel, mais devenir en nous une vie réelle. Et c'est avec ça que je vous laisse ce soir. Vous allez avoir la collation. Nous allons vous distribuer une petite feuille. Il y en a 4 pour nos rencontres. Dans cette feuille que j'ai préparée, sur ce thème, vivre de la vie d'un autre, j'ai marqué vendredi soir, 3 octobre, introduction et le texte biblique qui a été élu, Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 5 à 6, verset 3. Vous pouvez le relire vous-même avant de vous endormir, si vous le voulez. Et j'ajoute, le thème de cette retraite nous amène à nous poser quelques questions. Nous aimerions que tous et toutes puissent y réfléchir individuellement, à la lumière des Écritures et de la connaissance que nous avons de notre propre vie. Parce que vous pouvez juger vous-même. Hein. Qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je réalise? Et alors, dans les ateliers que nous allons avoir chaque jour, après votre moment de recueillement et de silence dans vos chambres, chacun pourra partager, alors dans des petits groupes, le fruit de ces méditations. Puis, au bout d'une demi-heure, on se retrouvera tous ici pour la séance plénière qui sera consacrée à un exposé biblique développant graduellement le thème qui vous a été proposé, donc vivre de la vie d'un autre. Et alors, samedi matin, je vous pose 3 questions. Et vous essayerez d'y répondre vous-même, dans vos chambres. J'ai simplement indiqué des textes, j'espère que vous les lirez, qui peuvent vous aider à donner des réponses. La première question est celle-ci. Puisqu'il est question de vivre de la vie d'un autre. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, à quelle vie l'homme était-il appelé dans le dessein éternel de Dieu ? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai, hein? Si vous lisez Genèse 3, hein? La création, est-ce que vraiment l'homme a été créé par Dieu pour être ce qu'il est maintenant? À vous d'avoir une conviction et de répondre. Hein? Alors je vous propose quelques lectures bibliques pour vous aider à répondre à cela. Mais il faut que vous ayez d'abord une conviction. Est-ce que Dieu a voulu que nous soyons ce que nous sommes maintenant? Deuxième question, pouvez-vous trouver dans les descendants du premier homme quelqu'un ayant manifesté dans ce monde la vie à laquelle Dieu le destinait? En pensant à toute l'histoire du monde, est-ce que vous pouvez trouver un descendant d'Adam, du premier homme, disons, qui a vécu vraiment cette vie que Dieu voulait. Je ne parle pas de Jésus-Christ, ça, hein. Je parle des descendants d'Adam. Là, je vous cite aussi quelques versets que vous pouvez lire. Vous avez tous une Bible, je l'espère. Et si quelqu'un n'en avait pas, il peut s'en procurer une. Et maintenant, il y a une troisième question. La loi de Dieu, sainte, juste et bonne, a-t-elle été donnée pour nous permettre d'accéder à cette vie que Dieu voulait pour nous et de la faire nôtre? Est-ce que c'est par la loi de Dieu que l'on peut vivre cette vie que Dieu voulait pour nous? C'est le sujet de notre étude de demain matin. Est-ce que ça vous paraît compliqué? Nous avons mis certaines références, hein, pour vous aider à trouver les réponses. Vous pouvez les lire, puis vous partagerez cela ensemble. Puis après, je ne vous dis pas que je vous parlerai de ces versets-là, hein, mais vous aurez un enseignement biblique. Et vous pourrez contrôler si ce que je vous dis après, si ça correspond à l'écriture, hein. Parce que je ne veux pas que vous avaliez tout ce que je dis. Comme ça. Parce que vous avez confiance, ou parce que j'ai des cheveux blancs. Vous savez, j'ai pas d'ailes, hein. Je m'appelle plutôt Ange Songer. Parce que de cela, je sais que le Seigneur en avait besoin. Il l'a dit, hein, un jour. Pour entrer dans la ville de Jérusalem, il a eu besoin d'un anon. Il a dit à ceux qui l'ont envoyé, si on vous demande quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin. Ben, tout ce que je désire, c'est d'être au milieu de vous comme un petit anon. Et puis que le Seigneur se place vraiment sur moi. Les disciples ont mis les vêtements sur l'anneau, puis le Seigneur s'est assis dessus. Vous ne voyez pas l'homme, mais seulement le Seigneur. Que je puisse, dans la dépendance et l'obéissance, vous apporter une parole. Et qui ait un prolongement dans votre vie, dans les jours qui viendront, parce que vous êtes dans le monde. On est dans une retraite ici, mais vous allez retourner dans le monde. Et vous allez être pris par toute espèce de combat, de lutte. C'est difficile de vivre aujourd'hui en 1986. Hein? Mais moi, je crois que le Seigneur a des réponses. Je crois qu'il a des solutions. Mais disposez déjà vos cœurs. Pensez à lui. Et vous serez bénis. Et alors, comme mon cher ami et frère Noël vient de vous le dire, j'espère que nous tiendrons un peu notre programme. Donc à 22h45, ce sera le coucher. Il y a la collation à 22h15. C'est moi qui suis déjà en retard de 15 minutes. Mais vous savez, plusieurs sont arrivés assez tard. On a dû commencer assez tard, hein, mais ça fait rien, hein, un quart d'heure. Cette fois. Ce soir. Hein. Vous savez, il y en a qui sont encore au cinéma ce soir. Hein. Ils ne se plaignent pas. Alors, demain matin, j'ai vu que nos chers amis André, Monette et Janine sont arrivés. Tu as ton violon, André? Alors, vous serez réveillé en musique, parce que quelqu'un me disait qu'il n'avait pas son réveil. Il n'y a pas besoin de réveil ici. Vous serez réveillé très gentiment en entendant le violon dans les couloirs, hein, à 7h demain matin. Et à 7h45, on vous donne rendez-vous ici, mais dans le silence. Vous venez de vos chambres pour être pile ici. À 45, vous pouvez venir même avant, mais quand vous venez dans cette salle, vous venez pour vous y recueillir. Hein. De sorte que moi, je vous retrouverai à 7h45, ici, une assemblée silencieuse, priant, et je vous donnerai le mot d'ordre pour la journée. Ce sera très court. À 8h, alors, après ce moment de recueillement et de prière, nous irons manger. À la cafétéria, le petit déjeuner est à 8h. À 9h, on se rassemble tous ici dans la grande salle. Et d'ici, vous partirez dans vos chambres, mais on vous aura dit de quel groupe vous devrez rejoindre. On a fait 11 ateliers et on vous a réparti. Vous êtes à peu près 7 ou 8 dans chaque atelier. Comme ça, vous avez l'occasion de vous connaître un peu et de partager ce que le Seigneur vous aura montré dans vos chambres. Nous vous en parlerons encore demain et c'est demain qu'on vous dira dans quel groupe vous êtes et dans quel lieu vous pouvez vous rencontrer. On a à notre disposition 11 salles. Enfin, il y aura deux groupes ici parce que la salle est assez grande. Hein. Et puis il y en a derrière, mais on vous indiquera tout ça demain. Alors après ce partage, à 9h45, de 9h45 à 10h15, vous avez ce partage. À 10h15, vous avez une collation ici. Et puis à 10h30, l'exposé biblique. À 12h, le dîner. À 14h, on se rassemble de nouveau dans la grande salle. Et puis, vous retournez dans vos chambres pour une demi-heure. Vous aurez une autre feuille avec d'autres questions, mais qui vous conduiront plus loin, hein, puisqu'on va aller graduellement. Et après votre demi-heure personnel, vous retrouvez vos ateliers, vous partagez pendant une demi-heure, puis vous revenez ici à 15h15 pour une collation. Et puis, après, c'est l'autre exposé biblique de 15h30. Le souper sera à 17h30. À 19h30, nous nous retrouvons ici pour chanter, pour nous détendre un peu dans la grande salle, puis à 20h, de nouveau, lecture personnelle dans les chambres, et atelier et partage, même système, à 21h, on se retrouve ici, exposé biblique, et 21h, 22h15, la collation est couchée, 23h. Et alors, le dimanche, ça sera le lever à 7h, à 7h45, la méditation ici, dans la grande salle, à 8h, le déjeuner, et à 9h, on revient ici et vous repartez pour une demi-heure dans vos chambres pour une dernière étude. On vous donnera une feuille, on n'aura pas le culte le matin, on fait encore une étude biblique, parce que je crois que le sujet est très important, et puis vous partagez de nouveau avec votre groupe, et puis il y a un exposé biblique à 10h30, à midi ce sera le dîner, et à 1h30, alors nous aurons le culte d'adoration. Nous terminerons tout cela avec le culte d'adoration et la Sainte Cène pour ceux qui se sentiront libres de répondre au désir du cœur du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Ce sera le sommet. Mais la matinée, nous la consacrons encore à l'étude de la parole parce que nous croyons que ce n'est pas trop d'avoir ces quatre moments que vous aurez d'abord avec le Seigneur, avec votre groupe et puis ici. Vous êtes d'accord avec ce projet? Les textes donc pour vous aider à répondre vous sont donnés. Si vous ne voulez pas tous les lire, vous ne les lisez pas tous. Mais si vous voulez faire des progrès, hein, moi je ne connais les gens qui font des progrès que ceux qui se nourrissent de la parole de Dieu. Pas tellement de commentaires, parce que plus vous lirez de livres, plus vous serez embrouillé. Mais plus vous lirez la parole en demandant à Dieu, révèle-moi ce que tu as à me dire, puisque tu dis que tu n'as pas parler pour les sages et pour les intelligents, eh bien, que tu veux le révéler à des petits-enfants, je suis un enfant, enseigne-moi. Et vous verrez quel maître vous trouverez dans le Seigneur. Bonjour, chers amis. Je pense que vous l'avez compris dès votre entrée dans cette salle ce matin. Le Seigneur lui-même a voulu vous saluer par cette parole que vous trouvez inscrite sur le tableau, parce que moi, je vis. Vous aussi, vous vivrez. Telle est la traduction la plus littérale de ce texte que vous trouvez dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean. Il est toujours bon de replacer un verset dans son contexte. C'est une des premières règles pour une compréhension saine de l'Écriture sainte. Et si vous lisiez ce chapitre 14e de l'évangile de Jean, qui nous rapporte une partie des entretiens que Jésus eut avec les siens la nuit même où il fut livré, vous verriez que juste avant de dire ces mots « parce que moi je vis », il disait ceci « vous me verrez ». Et parce que moi, je vis, vous aussi, vous vivrez. Vous me verrez. Il venait de dire, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et parce que moi, je vis, vous aussi, vous vivrez. Et ce matin, j'ai été réveillé très tôt, par cette parole, c'est pourquoi je vous l'ai donnée, comme je l'ai reçue. Vous me verrez, et parce que moi, je vis. Et c'est cela qui est essentiel. Parce que moi, je vis, vous aussi, vous vivrez. Ainsi a parlé Jésus. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a pour vous et pour moi, aujourd'hui, un homme dans la gloire. Il y a dans la gloire un homme qui est vivant et qui vous dit que c'est de cette vie qu'il a, dans la gloire, que vous et moi, nous devons vivre sur cette terre. Ce n'est pas d'une autre vie que nous avons à vivre, mais de cette vie qu'il a, dans la gloire, auprès du Père, où il se tient pour nous, où il nous représente. Et tel il est lui, nous dit l'apôtre Jean, tel, nous sommes dans ce monde. Vous me direz, mais ce n'est pas notre expérience. Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas ce que vous ressentez qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu nous dit. Et c'est cela que nous devons croire. Si vous commencez la lecture de ce chapitre 14 de Jean, vous entendrez Jésus dire, si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et je vais vous préparer une place. Où est votre chez vous? C'est là-haut. Votre chez vous, il est là-haut. C'est là qu'il vous a préparé une place. Une place que personne ne pourra vous ravir.
et de ce ciel de gloire où il vit. Il vous dit, eh bien maintenant, vous aussi, vous vivrez. Et hier soir, dans notre introduction sur le grand thème de cette semaine, vivre de la vie d'un autre, nous nous sommes tout de suite posé cette question, mais qui est cet autre dont nous devrions vivre, ou dont nous devons vivre, de sa propre vie? Et nous avons tous compris qu'il était question du Christ. Et nous l'avons vu hier soir, en lisant ces quelques paroles dans l'Épître aux Hébreux. Nous l'avons vu comme homme sur la terre, offrant à son Père, avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, qui était devant lui, que le monde lui préparait. Et il a été dit qu'il a été exaucé. Pour quelle raison? À cause de sa piété, à cause de sa relation avec ce Père, il a été exaucé. Mais nous avons dit, mais pourtant, il est mort. Oui, mais il n'est pas resté dans la mort. Pour quelle raison? Parce qu'il avait la vie en lui-même. Et parce qu'il avait la vie en lui-même, il pouvait la donner, mais il pouvait aussi la reprendre. Et triompher ainsi de la mort. Parce que moi je vis, disait-il. Il n'a pas dit parce que je ressusciterai, mais parce que moi je vis, parce qu'il est la vie même. Vous aussi, vous vivrez. Et dans mon cœur, il y a pour vous, comme pour moi, cet intense désir que cette vérité révélée dans l'Écriture devienne pour nous une expérience vécue. Parce que les vérités révélées dans l'Écriture ne deviennent vérités pour nous que lorsque, par le Saint-Esprit, il nous est donné de les expérimenter. Il nous est donné de les vivre, que c'est vrai, que ce n'est plus notre vie, mais que c'est sa vie, et que c'est cela qui doit compter pour vous, et que vous devez définitivement détourner les regards de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous éprouvez, de votre pauvre expérience, pour croire la parole de Dieu. Nous ne marchons pas par la vue. Ce n'est pas en vous regardant dans un miroir que vous saurez quelle vie vous avez. C'est en regardant Jésus. Vous me verrez. Vous me verrez. Et parce que moi je vis, vous aussi, vous vivrez. Mes bien-aimés, chapitre 14 de l'Évangile de Jean, je l'ai reçu il y a 50 ans, au temps de ma vocation, à la fin d'une longue maladie en Italie. C'était en 1936. Il m'a fait la grâce de le rencontrer. Oh, je l'avais rencontré avant pour l'accueillir comme mon sauveur. Mais c'est en 1936 que ce sauveur m'a appelé à vraiment le servir. Et le servir non pas avec mes propres forces, mais avec sa force renouvelée, jour après jour, au travers de toutes les épreuves. Et c'est à cela, mes bien-aimés, qu'il vous convie aujourd'hui de croire que c'est parce que lui vit que vous aussi vous vivrez. De cette vie qui était dans le cœur du Père pour chacune de ses créatures. Dieu notre Père, nous voulons nous oublier complètement nous-mêmes, ne plus être centrés sur ce pauvre moi, pour n'avoir plus de regard que pour toi, Seigneur Jésus, qui est notre vie. Nous savons bien que le monde ne peut pas discerner cela, parce que le monde ne te connaît pas, ne veut pas te connaître, refuse ton esprit. Et nous, nous le savons bien, si nous expérimentons si peu ces choses, c'est parce que nous contristons cet esprit, c'est parce que nous l'attristons. Et nous voulons te demander que tu nous accordes dans ces journées de véritables libérations, mais des libérations qui ne durent pas un jour, qui ne soient pas une émotion momentanée, mais qui deviennent un renouvellement constant, heure après heure, moment après moment, pour qu'avec Paul, qui n'est pas une exception, nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, je ne le vis plus selon la chair, mais je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qu'il en soit ainsi pour ta seule gloire, ô Dieu notre Père, nous qui nous appelons par Jésus-Christ tes enfants dans la puissance du Saint-Esprit. Amen.
Bonjour, chers amis. Eh bien, ce matin, une fois encore, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous salue. Et la parole qu'il nous dit, c'est la première que j'ai écrite sur le tableau. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Le Seigneur qui ne peut pas nous mentir. Le Seigneur qui a pu dire lorsqu'il était sur les chemins, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, qui êtes travaillés, qui êtes chargés, et recevez mes instructions. Venez à moi, et vous trouverez du repos. Vous trouverez le repos. Il ne peut pas vous mentir. Et c'est lui qui vous accueille en vous disant, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le croyez-vous? Personne n'est mis dehors, mais le Seigneur ne vous violera pas. Le Seigneur ne vous contraindra pas. Il vous invite. Et il vous dit avec certitude que si vous venez à lui, vous serez accueilli. Et accueilli comment? Comme il sait accueillir. Il vous prendra dans ses bras. Et vous connaîtrez en lui la divine étreinte qui change notre vie et qui peuple notre solitude de son infinie tendresse. Et la parole qu'il a ajoutée, c'est la seconde que j'ai mise sur le tableau, où il nous dit encore lui-même, à cause de ceci, le Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour mes brebis. N'est-ce pas extraordinaire? Si vous venez à lui, ce qu'il va vous donner, c'est sa vie. Il va vous la donner. Et il vous dit que justement, c'est à cause de cela que le Père l'aime. Ce Père aime son Fils. Pour quelle raison? Parce que son Fils a accepté de donner sa vie pour qui? Pour vous. Pour les autres. À cause de cela, le Père m'aime. C'est que je donne ma vie. L'avez-vous reçu cette vie? Cette vie qu'il nous donne. Et qui lui permettait sur cette terre de connaître cet amour du Père sans cesse renouvelé pour lui. Cet amour que nous aussi, dans notre vie quotidienne, nous pouvons connaître. Si nous sommes venus à lui. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour mes brebis. Le Seigneur n'est pas un boucher. Le Seigneur est un bon berger. Et quel que soit l'état de la brebis, il s'en occupe. La perdue, il la cherche. L'égarée, il la ramène. La blessée, il la panse. Et la malade, il la tue, il la guérit. Je la fortifierai. Vous pouvez recevoir cette force qu'il nous communique. Et c'est celui qui ne peut pas vous mentir qui vous dit cela. Recevez maintenant ces paroles. Et la dernière. La dernière qui apporte la plénitude. C'est toujours Jésus qui parle. Celui qui est la vérité. Et qui veut que vous connaissiez cette vérité pour vous-même, dans le quotidien. Si quelqu'un m'aime, maintenant, c'est votre réponse. Si vous l'avez contemplé, comment ne pas l'aimer? Si vous l'avez vu souffrir, comment ne pas vous attacher à cette personne quand vous avez saisi que c'était pour vous que cette personne avait souffert? Pour vous individuellement, pour vous personnellement, pour vous à cause de toutes ces fautes, même de ce que vous appeliez péché mignon, toutes ces meurtrissures qu'il a endurées, c'était pour votre guérison. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi ne pas saisir en ce 5 octobre 1986 cette guérison, elle est là. Et nous n'en voulons pas. Alors nous ne connaîtrons jamais cette dernière parole. Si quelqu'un m'aime ici, voulez-vous le croire?
indépendamment de vos circonstances, n'est-il pas digne de votre amour? Lui qui vous a aimé le premier, comment ne pas l'aimer? Lui qui m'a tant aimé, si quelqu'un m'aime, bien quelle est la preuve de mon amour? Il gardera ma parole. Mais pour la garder, il faut d'abord la connaître. Pour la connaître, il faut en prendre connaissance, il faut la lire. Non pas par devoir religieux, mais parce qu'on a faim de cette parole, parce qu'on veut se nourrir, comme tout à l'heure vous allez vous nourrir à la cafétéria. Eh bien, prenez maintenant votre petit déjeuner à ce que j'appelle le restaurant du ciel. Et nourrissez-vous de cette parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et qu'est-ce qui arrivera? Mais c'est fantastique, mon Père l'aimera. Et comment Dieu aime-t-il? Il aime toujours de la même manière. Il aime comme il a aimé son Fils. Vous serez aimés comme a été aimé son Fils. C'est cela l'amour que Dieu voudrait vous témoigner. L'amour qu'il avait pour son Fils, il veut l'avoir pour vous. Car il ne fait pas de différence avec ses fils adoptifs. Celui qui adopte des enfants, et par la grâce de Dieu, il m'a donné d'en adopter, je sais que je les aime autant que ceux de mon sang. Et même que l'on fait peut-être plus pour ceux que l'on a adoptés que pour nos propres enfants. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la chair et le sang qui nous dirigent, mais l'amour du Père. L'amour du Père pour nous, mon Père l'aimera. Vous ne serez pas heureux cet après-midi en pensant qu'en partant d'ici vous êtes aimé du Père. Il vous l'a dit personnellement, c'est le message qu'il vous a communiqué en ce 5 octobre. Si vous gardez ma parole, si vous gardez la parole de Jésus, si vous apprenez à la connaître, si vous la faites vôtre, eh bien son Père vous aimera. Et qu'est-ce qu'il y aura? Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. C'est la Trinité tout entière que nous avons vue à la création. La Trinité tout entière que nous avons vue dans sa manifestation au baptême de Jésus. Cette Trinité tout entière viendra à vous. Créée à l'image de Dieu, esprit, âme et corps. Et le Dieu qui est esprit viendra vivifier votre esprit, habitera dans votre esprit, veut faire de votre esprit sa demeure. Le Fils qui vous a tant aimé veut habiter dans votre âme, dans ce qui était votre moi autrefois, pour que ce soit lui qui soit dans votre âme. Le Père dans votre esprit, le Fils dans votre âme, de sorte que vous pourrez dire réellement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a fait sa demeure dans mon âme, dans mes sentiments, dans ma volonté, dans mon intelligence, toutes les puissances de l'âme, et même notre mémoire, toutes ces puissances de l'âme, sont maintenant l'habitation du Seigneur. Et le Saint-Esprit va faire son habitation dans notre corps, esprit, âme et corps. Votre corps, ne le savez-vous pas? Il est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est un sanctuaire. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main, il habite dans le cœur de l'homme. Il habite en vous. Et si c'est le Saint-Esprit qui est dans votre corps, ce corps dont nous employons si souvent les membres pour le péché, eh bien ce corps sera dominé par une puissance qui n'est pas la nôtre, car notre puissance n'est que faiblesse, par la puissance même de l'Esprit qui animait Jésus. Et c'est ainsi que vous serez sous le contrôle heureux et divin de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, Dieu unique, béni éternellement. Dieu notre Père, tu nous offres la plénitude qu'à notre tour nous puissions te dire dans l'humilité, Seigneur, viens.
que cette journée, notre dernière journée, soit la grande journée où nous entendrons ta voix encore une fois, pouvant nous dire que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen.